Shalom Aleichem. Alors, on est aujourd'hui donc dans la information sur le couple. On va faire une petite interruption sur la série de cours que nous avons consacrée donc aux différentes séquences de la vie de couple, les séquences qui dégénèrent et les séquences de construction. Là, on va s'intéresser simplement à un point qui est fondamental. Beaucoup, je suppose, beaucoup d'entre vous se demandent souvent qu'est-ce que les rabbins font sur le terrain des psychologues. Qui sont ces rabbins qui interviennent sur le terrain des psychologues? Alors, je pense que cette question, elle repose sur un malentendu et sur une confusion. En fait, ce ne sont pas les rabbins qui sont sur le terrain des psychologues. Ce sont les psychologues qui, sans le savoir, interviennent comme des rabbins. Je m'explique. Ce que les psychologues racontent, ou ce que les psychanalystes racontent, ce que les psychologues et les psychanalystes font dans leur clinique lorsqu'ils interviennent sur des patients, eh bien, ça n'est ni plus ni moins que de s'intéresser à la psyché humaine. La psyché humaine, c'est l'âme humaine. C'est le fonctionnement psychologique d'un individu. Or, ces gens-là, sans le savoir, répètent à peu près 5 à 6% en quantité de tout ce que la Torah orale et la Torah écrite racontent sur la psyché humaine. Je vais vous donner un exemple très simple. Rabbi Meir, interrogé par les rédacteurs du Talmud, se voit poser la question suivante. Il la reprend à son compte. Il dit, pourquoi est-ce que l'homme et la femme doivent se séparer quelques jours par mois? Vous savez que les lois de Nida imposent une séparation physique stricte entre les époux qui ne devront pas se toucher, qui ne devront pas se passer d'objets de la main à la main, qui ne devront pas dormir dans le même lit, qui ne devront pas avoir de gestes affectueux l'un envers l'autre, caresses, bisous ou autres, etc. et qui ne devront pas avoir de relations intimes. Tout ça dans la période où la femme est déclarée Nida. Et donc la Gemara demande, pourquoi est-ce que la femme doit se séparer de l'homme durant cette période-là? Pourquoi est-ce que les époux sont séparés à ce moment-là? Et Rabbi Meir répond, il dit, c'est pour que la femme soit chère aux yeux de son mari, comme au jour du mariage. Alors c'est très intéressant parce que les lois de Nida font partie des lois qui sont d'abord des décrets. Ce ne sont pas des lois qui sont compréhensibles à première vue du point de vue humain. Elles ne font pas partie de ce qu'on appelle les mishpatim, c'est-à-dire des lois dites compréhensibles du point de vue de la logique humaine. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, aimer son prochain comme soi-même, faire le bien autour de soi, donner de la tzedaka, aider les pauvres. Tout ça, ce sont des mitzvot, ce sont des commandements qui appartiennent à la série des commandements mishpatim, c'est-à-dire perceptibles par l'esprit humain. Ne pas mélanger le lait et la viande, ne pas mélanger le lin et la laine, tout ça appartient à des commandements qui sont dits des choukim. Ce sont des décrets qui échappent à la logique humaine en grande partie. Nida, a priori que l'homme et la femme doivent se séparer totalement sur le plan physique et ne pas se toucher du tout, ne pas pouvoir se passer des choses de la main à la main, ne pas pouvoir s'étreindre, s'embrasser, ne pas avoir de relations intimes, y compris au moment où le flux s'est arrêté, attendre encore quelques jours. Tout ça appartient au domaine du roc. Ça appartient quand même au domaine du décret. C'est quelque chose que la logique humaine a quand même un petit peu de mal à saisir. Pourquoi une séparation aussi drastique? Alors, c'est la question à laquelle il vient répondre Rabbi Meir ici. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il dit, c'est pour que la femme elle soit chère aux yeux de son mari, comme au jour du mariage. Pourquoi? Parce qu'au jour du mariage, l'homme et la femme se découvrent. Alors je sais qu'en Occident, c'est une parole un peu bizarre, parce que l'homme et la femme se découvrent le jour du mariage. En Occident, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. D'abord, qui se marie? Et puis ensuite, les gens se marient à la mairie. Et puis ensuite, la France et l'Occident sont redevenus des lieux de paganisme, c'est-à-dire des lieux qui ont totalement détruit la notion de sacralité. Donc effectivement, cette notion de séparation entre l'homme et la femme est bizarre. Mais pour celles et ceux qui peuvent avoir une petite appréhension de la chose, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si l'homme et la femme, effectivement, avant le mariage, ne se sont pas connus physiquement, dans l'intimité, mais ils se sont connus sur le plan de leur projet, sur le plan mental, psychique, ils ont partagé une très très forte connivence sur le plan mental, psychique, et donc une très très forte attirance l'un envers l'autre, eh bien, ils ont en quelque sorte la possibilité de fusionner, cette fois-ci du point de vue physique-psychique, par la relation intime. Mais alors, qu'est-ce qui est dit ici? Ça, c'est ce qui se passe le jour du mariage. C'est quelque chose d'extrêmement fort qui va se nouer entre l'homme et la femme, qui ont observé les lois de Kedusha, de sainteté de la Torah. Eh bien, ils vont pouvoir vivre un mariage par mois. Mais qu'est-ce que ça signifie, vivre un mariage par mois? Ça signifie qu'ils vont pouvoir rafraîchir et renouveler leur relation tous les mois. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne vont jamais connaître la lassitude. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être constamment dans le renouvellement, qui vont être constamment dans la redécouverte, qui vont être constamment dans une fraîcheur dans leur relation. Alors qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Je suis en train de parler comme un rabbin ou comme un psychologue? Alors, les psychologues américains, par exemple, dans les années 70-80, ils ont repris à leur compte le système des lois de pureté familiale pour essayer de rafraîchir des couples. Alors, ça a marché un mois, deux mois, mais ça n'a pas trop marché parce qu'il n'y a pas l'élément divin, l'élément du Ratzon Hashem, de la volonté d'Hashem, imprimé dans la Torah, qui ensuite, par son observance, s'imprime dans l'âme, s'imprime dans le psychisme, s'imprime dans le fonctionnement, s'imprime dans les énergies, s'imprime dans les émotions et s'imprime dans le corps. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas ce trajet qui part de la volonté divine et de l'âme et qui atterrit jusqu'au corps, en passant par les différentes strates psychiques, mentales, énergie, émotions. Il n'y a pas tout ça. Mais malgré tout, lorsque vous prenez cet simple enseignement de Rabbi Meir, vous pouvez faire un cours d'une heure dans lequel vous aurez l'air d'un psychologue. Mais en vérité, ce sont les psychologues qui, sans le savoir, disent ce que la Torah orale a mis par écrit 17 siècles avant Freud, avant Charcot, avant Lacan, avant Erickson, avant tous les théoriciens de la psychologie ou de la psychanalyse moderne. Donc les rabbins ne se prennent pas pour des psychologues. Les rabbins sont des rabbins. Un homme de Torah, une femme de Torah, peut se permettre de donner des conseils en psychologie et en psychanalyse, ce que nous appelons aujourd'hui la psychologie et la psychanalyse, parce que c'est quelqu'un qui, si réellement il a parcouru nos textes, les textes des psoukim, les versets, la loi orale, le midrash, les textes de Moussar, d'éthique juive, les textes de Hashkafa, les textes dits de pensée juive, Hashkafa ça veut dire de vision du monde, qui en plus a eu la possibilité de fréquenter les plus grands rabbanim de notre époque, qui sont des immensités sur le plan psychique, mental, spirituel. Si en plus on a eu la possibilité, comme c'est mon cas, de fréquenter des gens comme Rav Sifra Cohen, qui est aujourd'hui la référence en matière de Shalom Bayit. Si on a eu la possibilité en plus de croiser les plus grands psychologues israéliens, religieux ou pas d'ailleurs, mais qui sont des gens qui ont toujours, même quand ils ne sont pas religieux, une très très forte attirance pour le spirituel. Et on les comprend. Parce que où est-ce que la psychologie et la psychanalyse ont été puisées, parfois sans le savoir, leurs références? Si Freud avait lu le chapitre de Brachot, du traité Brachot consacré aux rêves, il aurait vu que 17 siècles avant sa théorie sur les rêves, nos sages s'étaient intéressés sur les rêves et sur la manière dont la psyché humaine les réceptionne et la manière dont le filtre du psychisme et de la volonté va véhiculer ses rêves et ce qu'elle va en faire dans la réalité. Si les théoriciens de la pensée positive aujourd'hui avaient lu le Malbim au 19e siècle, qui était un commentateur de la Torah sur les lois nous enjoignant de respecter nos parents, ils auraient vu par exemple que lorsque on nous a enjoigné de respecter nos parents, et ce commandement est répété deux fois dans la Torah, une fois dans le Sefer Shemot, dans l'Exode, et une fois dans Vaetranan, la paracha que nous allons lire d'ailleurs dans quelques jours, au moment où j'enregistre, où on répète les Aseret Adibrot, les 10 commandements, et là il y a un petit mot qui est rajouté pour le respect des parents. Il faut que tu le fasses de manitavlera, pour que ce soit bon pour toi. Tu dois respecter tes parents pour que ce soit bon pour toi. Et le Malbim dit, il y a beaucoup de gens qui maudissent le monde et la vie dans laquelle ils sont arrivés et le monde dans lequel ils se trouvent. Simplement, ce sont des gens qui oublient qu'ils peuvent regarder leurs parents positivement. Et s'ils regardent leurs parents positivement et leur vie positivement, alors yitavlecha, il y a du bien qui va leur revenir. Alors vous allez me traiter de psychologue si je vous explique ça pendant une heure? Mais ce sont des versets, ce sont des psoukim, ce sont des enseignements de nos sages. Donc quand un rabbin parle de psyché humaine, et donc il touche au domaine de la psychologie, de la psychanalyse, en fait, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte ce que la Torah orale a dit 17 siècles avant la psychanalyse et la psychologie moderne. Mais alors attention, ça ne veut pas dire qu'il a toutes les réponses à toutes les questions, parce que notamment quand il s'agit de thérapie, la thérapie, ça ne s'invente pas. On peut donner des bons conseils, on peut donner des bons diagnostics, on peut être un excellent, on va dire, accompagnateur, mais thérapeute, c'est une autre affaire. Alors effectivement, il faut être formé. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui en Israël, vu le nombre de problèmes qui existent aujourd'hui dans les milieux orthodoxes, dans les milieux religieux, dans les milieux traditionnalistes et dans les milieux évidemment totalement chiloni, dans les milieux où les gens ne sont pas du tout pratiquants, eh bien on a formé aujourd'hui des rabbins comme votre serviteur, qui sont donc des gens qui vont être des thérapeutes du couple et qui sont des gens qui vont se parfaire dans leur art tout au long des années en apprenant effectivement, en se perfectionnant, en apprenant toujours plus évidemment au niveau des théories psychologiques, psychanalytiques, mais qui vont aussi parfaire leur connaissance de nos textes qui parle de la psyché humaine. Et on ne s'étonnera donc pas que les rabbins se retrouvent à intervenir sur le terrain de la psychologie ou de la psychanalyse. À part ça, il y a un autre point que j'ai soulevé dans un autre cours, mais qui est très intéressant. Quelle est la différence fondamentale entre la psychanalyse, la psychologie et le moussar? Le moussar, c'est l'ensemble des textes qui traitent précisément du travail sur soi, de l'amélioration de son caractère, qui donc assigne un but au travail psychologique, à la recherche de l'individu sur sa psyché, sur son âme. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire « je suis malade et je ne sais pas pourquoi je suis malade et je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Et maintenant j'ai compris pourquoi je suis malade. » Il s'agit d'en sortir. Quelle est la différence fondamentale? Il y a une différence fondamentale, mais il y a quelque chose qui les réunit. Ce qui réunit ces trois sciences, en quelque sorte, la psychologie, la psychanalyse et le moussard, c'est-à-dire toute la partie éthique, psychique, psychologique, fonctionnement de la Torah, c'est le souci précisément du fonctionnement de l'individu. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui dysfonctionne chez lui? Mais il y a un mais. Que fait la psychanalyse? La psychanalyse va s'intéresser de manière très profonde à l'intention de l'action, à l'intention profonde des actions et des fonctionnements de chacun d'entre nous, en règle générale. Que fait la psychologie en règle générale? Elle s'intéresse au fonctionnement et aux raisons du fonctionnement et aux raisons du comportement. Alors elle s'intéresse également aux raisons de ce qui dysfonctionne et de ce qui régit un comportement. On prête à la psychologie plus de légèreté par rapport à la psychanalyse ou à la psychanalyse plus de profondeur par rapport à la psychologie. Ça, ce sont des affrontements qui intéressent les différentes chapelles. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Et là, en tant que rabbin, je vous dis, je ne rentre pas là-dedans. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je regarde un principe qui est très simple. Chochma bagoyim ta'amin. Tu peux croire qu'il y a de la chochma à l'extérieur de la Torah. Chez les non-juifs, il y a de la chorma. Surtout que beaucoup des intervenants sur la psychologie sont des juifs. Et donc ce sont des gens qui ont, sans le savoir, encore une fois, comme je l'ai dit, répété 10% de ce que la Torah dit sur la psyché humaine. Quand je dis la Torah, c'est la Torah au sens le plus large du terme. Mais en tout cas, chorma bagoyim ta'amin. Il y a de la chorma partout. C'est un esprit curieux, et le Maharal de Prague en était un, et le Gaon de Vilna en était un, et tous les Talmidei Chachamim, d'une manière générale, sont des gens, les Talmidei Chachamim, les érudits en Torah, sont des gens curieux, sont des gens qui s'intéressent toujours à ce qui se passe au niveau scientifique, dans tous les domaines de la science, et dans tous les domaines de la réflexion, dans les domaines philosophiques. Ça les intéresse, par curiosité, ça veut dire qu'ils vont aller passer du temps dessus, mais ça les intéresse. Moi, je crois au principe de Chochma Bagoyim Ta'amin. Ça veut dire que la psychanalyse ou la psychologie peuvent apporter quelque chose, les deux. Donc, je ne les mets pas en concurrence ni en opposition. Je laisse les différents tenants des différentes chapelles s'affronter lamentablement et bêtement et stupidement, comme on s'affronte dans les salons parisiens à coups d'insultes et d'injures. Je leur laisse à eux ce triste privilège. Moi, je récupère ce qu'il y a de positif là-dedans et j'en fais un instrument de travail. Et le moussard, et la Torah orale, et toute cette sagesse infinie de la Torah orale, qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Quel est le plus qu'elle apporte? Ben, elle apporte un plus fondamental. C'est qu'elle est le produit d'une transformation, d'une transmission qui part de Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'elle s'intéresse à ce que l'âme humaine produit lors des différentes phases de transformation qu'elle subit pour s'exprimer dans le monde. Nous avons une âme d'origine divine. Cette âme, elle donne une impulsion de volonté, une impulsion de vie. Maintenant, cette impulsion de volonté de vie, elle passe par des écrans. Ces écrans, c'est la volonté, c'est la conscience, c'est l'éducation, c'est la génétique, c'est les choix que nous avons faits dans la vie, c'est le fonctionnement, c'est les énergies, c'est les émotions. Ça passe par tous ces prismes. Et donc, une impulsion de vie va traverser toutes ces couches, elle va traverser également des couches d'existence. Donc, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse, nous les rabbins, et là c'est un plus effectivement que nous avons, je pense, par rapport à la psychologie moderne ou à la psychanalyse moderne, c'est que nous sommes capables d'appréhender la totalité de l'expérience humaine. Envisager l'homme non pas comme le produit d'un singe évolué, de l'évolution, ce qui est le cas, ce qui a été le cas pour Freud, et ce qui est le cas pour nombre de psychologues aujourd'hui, qui pensent que l'homme est un singe achevé, et donc qui pensent que toute une série de comportements sont des comportements qui sont liés à l'expression de pulsions primaires. Notre point de départ n'est pas le même. Là, effectivement, nous différons. Notre point de départ n'est pas le même. Nous pensons que les pulsions, les forces, les midot, les traits de caractère, les fonctionnements, les émotions, etc., etc., tout ça part du divin, de la part divine qu'il y a en l'homme, juif ou non. Et donc, nous n'attendons pas de ce que nous pouvons apporter comme bienfait, une amélioration de la condition humaine animale, mais plutôt une expression améliorée de la nature profondément divine, spirituelle, psychique, mentale de l'individu. Ça, c'est vrai que le point de départ n'est pas le même. Le point de départ n'est pas le même, et là, effectivement, il peut y avoir une confrontation. ne faut pas avoir peur des mots. Il peut y avoir une confrontation. Il peut y avoir une confrontation. Ça veut dire qu'en vérité, et ça c'est extraordinaire, on peut être amené à dire la même chose que les psychologues, mais pas pour la même raison. Donc on ne dit pas la même chose. Quand nous disons, par exemple, un exemple très simple, nous parlons, par exemple, de sexualité. Une fois quelqu'un m'a dit, vous parlez de sexualité ? Alors c'était, il y avait des amis, comme ça, du monde. Je lui dis, oui, mais pas maintenant. Il me dit, ah bon, pourquoi ? Je lui dis, parce que pour nous, il y a des forums. Il y a un temps, il y a une heure, il y a un lieu. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça ? Je lui dis, parce que c'est un domaine dans lequel s'exprime la tzniout, la pudeur, la kedusha, la sainteté. C'est un domaine dans lequel s'expriment des choses qui sont extrêmement fortes du point de vue spirituel, psychique, mental. Il dit, mais vous qui me parlez maintenant, vous pensez que c'est un domaine dans lequel s'expriment des pulsions très fortes, des forces très fortes, des pulsions de vie, par exemple. Mais quand vous parlez de pulsions de vie, de quoi vous voulez parler ? Il me dit, de l'envie. Je lui dis, non, quand vous parlez de pulsions de vie, vous parlez de quelque chose de spirituel. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Pulsion de vie, c'est quelque chose qui appartient à l'origine divine de la vie. Donc on ne parle pas de la même chose, le point de départ n'est pas le même. Et donc on va être amené à traiter des gens qui ont effectivement toute une série de psychoses, névroses, alors ça c'est le langage de la psychologie, la psychanalyse moderne, de psychoses, de névroses, de souffrances, de dysfonctionnement, mais notre point de vue, parce que notre point de départ n'est pas le même, notre point de vue n'est pas le même. Notre promenade n'est pas la même. Notre visite n'est pas la même. Ce à quoi nous arrivons, c'est tout à fait autre chose que ce à quoi peut arriver la psychanalyse ou la psychologie moderne. Bien que ce sont des domaines dans lesquels il puisse y avoir des rencontres thérapeutiques, dans les domaines dans lesquels il puisse y avoir ce qu'on appelle une sikha meshoutefet, il y a des mots communs, mais ces mots ne sont pas chargés du même sens et de la même origine. Je donne un exemple très simple également, la folie. Dans notre métier, on est souvent confronté à la folie. Il y a des gens qui sont fous, ça existe. Vous voyez, ce simple qualificatif, dire de quelqu'un qu'il est fou, c'est un problème. Alors là, on va se rencontrer avec les psychanalystes ou les psychologues, parce que beaucoup de gens diront, on ne dit jamais de quelqu'un qu'il est fou. Par exemple, si on parle à un enfant de son frère ou de son père ou de sa mère, on ne dit pas il est fou, on dit il est fatigué. Tu sais, en ce moment, il est fatigué. Alors, il est... Bon, voilà, il ne peut pas tellement t'écouter, il a un peu de mal, il a du mal à se consacrer à toi. Toi, tu vas pouvoir aussi te consacrer à lui. Maintenant, lorsque vous allez expliquer ça à un enfant, par exemple, eh ben nous, on va mettre en marche autre chose. On va mettre en marche, par exemple, son chesed. Parce que dans la Torah, il y a une obligation de chesed. Imagine que toi, tu sois à sa place. Qu'est-ce que tu aimerais ? Qu'on t'écoute, qu'on te comprenne. C'est ve'avta le'ra'acha kamocha. Tu feras marcher ta machine à aimer comme tu veux qu'elle fonctionne avec les autres. Donc, tôt ou tard, dans la thérapie, vont arriver en filigrane, par derrière, parfois même vont rentrer directement, des données que les psychologues appelleraient des codes comportementaux, des données culturelles, ce sont les mots creux de l'Occident païen aujourd'hui, mais qui, bon, pour nous, ce sont des mitzvot. C'est des mitzvot. On va parler de mitzvot. Et même un non-juif, on va lui parler des Sheva mitzvot bene noir, des sept mitzvot qu'un non-juif doit accomplir. Alors, on ne va pas le faire comme je suis en train de le faire là maintenant, directement. Évidemment, si vous me prenez au mot, au vol, comme ça, comme on le fait souvent sur Internet, et puis après on balance n'importe quoi, oui, effectivement... Eh bien, à quoi ? Alors, vous allez leur parler de tefilin aussi ? Non, comprenez-nous, dans un processus de thérapie, on est amené à recevoir beaucoup d'informations et à restituer des informations. Parfois, les informations, on les restitue au détour d'une phrase. C'est dans un non-dit aussi, parfois. Ça fait partie aussi de la thérapie. On attend aussi, parfois, la question du patient, la demande du patient. Parfois, on attend même le transfert. Ça, c'est une donnée de la psychanalyse moderne. D'accord ? Le transfert. Ou Lacan disait, le transfert, c'est l'amour. C'est quoi le transfert ? C'est une relation de sincérité à sincérité, c'est une relation silencieuse dans laquelle le sujet attend quelque chose du thérapeute. Il y a un moment où on peut restituer quelque chose qui va l'aider à réfléchir aussi et qui va précisément venir de nos sources. Bref, les gens qui pensent que les rabbins n'ont rien à faire sur le terrain des psychologues sont des gens qui n'ont rien compris à la psychologie et à la psychanalyse. Parce que la psychologie et la psychanalyse, en le sachant ou sans le savoir, puisent leurs sources dans nos textes. Et simplement, que les outils théoriques ne sont pas forcément les mêmes, comme je l'ai souligné, parce qu'effectivement, beaucoup croient dans la théorie de l'évolution, et nous, on n'y croit pas du tout. Nous, on ne pense pas que l'homme est un singe achevé, nous, on pense que l'homme, c'est une création divine. Et donc, ça change évidemment beaucoup de choses dans le point de vue, et ça change des choses dans la thérapie, ça change des choses dans la perception, et ça change des choses dans la culture que transporte la thérapie. Mais malgré tout, on va quand même pouvoir avoir de très nombreux points de rencontre, on va quand même pouvoir s'écouter les uns les autres, on va pouvoir partager énormément d'expériences, parce qu'il y a dans la pratique psychanalytique ou psychologique, quelque chose qui est profondément juif, si si je puis dire, en ce cas profondément taurin, qui est le souci de l'autre, qui est le souci de l'équilibre et du bien-être de l'autre. Alors vous allez me dire, mais c'est universel, pas besoin de la Torah. Là, on parle ici d'une rencontre entre la Torah et la psychanalyse. Donc c'est pour ça que je me permets de le dire, excusez-moi, qu'il y a une rencontre ici entre la psychanalyse, la psychologie et la Torah, parce qu'il y a ici quelque chose qui est de l'ordre du chesed, de la bonté. C'est finalement, quelle est la souffrance de l'autre et comment je peux aider l'autre à sortir de sa souffrance. Les souffrances physiques, on peut les guérir, on peut les guérir assez rapidement. Mais les souffrances psychologiques, mentales, les souffrances spirituelles, ce sont des souffrances très fortes, ce sont des souffrances très lourdes. Ce ne sont pas des choses qu'on guérit comme ça, en quelques coups de pinceau. Pinceau psychologique, psychanalytique, ou même moussarique. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ça prend du temps. Rav Israël Salanter, qui était le grand maître du moussar, il a vécu donc à la fin du 19e siècle, début 20e, et il disait, il faut savoir que la plupart de nos actes sont guidés par des forces inconscientes. Il insistait beaucoup sur cette notion-là, de cette notion d'inconscient. Alors, il a vécu à la même époque que Freud, donc il s'est un petit peu inspiré de ce qu'il se disait à l'époque. Sauf qu'il aurait pu se rapporter, il l'a fait d'ailleurs, à Shaoul, au roi Shaoul, qui a vécu un phénomène de dépression, entre guillemets, lorsqu'il a su que David, donc, parce qu'il a compris que David allait devenir roi, que surtout lui-même allait perdre sa royauté. Et effectivement, à ce moment-là, donc, il a vécu un phénomène de dépression très forte qui l'a complètement fait perdre tous ses moyens. Et c'est très intéressant parce que ce personnage-là, c'est un personnage qui a le roi HaKodesh, il a l'Esprit Saint, c'était un roi d'Israël. Donc il y a une dimension ici qui est une dimension supplémentaire par rapport à la simple dépression, c'est-à-dire ce que nous qualifierions aujourd'hui de dépression, mais qui est en fait une perte réellement de sens de son existence au niveau également spirituel, c'est au niveau de sa prophétie, au niveau de son lien avec Hachem. Bref, tout ça pour dire que les rabbins sont parfaitement à leur aise et parfaitement à leur place sur le terrain de la psychologie et de la psychanalyse. Magam, n'est-ce pas que, faut-il ajouter, est-ce qu'on a besoin de l'ajouter, que vous savez aujourd'hui en Israël, le nombre de gens aujourd'hui qui se tournent vers des rabbins pour trouver des réponses à leur mal-être, et des gens qui sont religieux ou pas, justifient largement l'intervention et la formation de rabbins donc sur ce terrain-là. Voilà, c'était la réponse, je pense, le bout de réponse, c'est un début de réponse, mais le débat est ouvert. Je ne dis rien, j'ai affirmé effectivement, mais je ne dis rien ici qui ferme le débat, et je suggère à toutes celles et à tous ceux qui veulent en débattre, effectivement, de nous faire parvenir leurs questions, et effectivement, on débattra et on pourra avancer un petit peu. Je le demande à toutes celles et à tous ceux qui veulent simplement insulter ou injurier de nous faire grâce de leurs remarques. Merci, c'est bon. On sait que sur Internet, les gens savent le faire. Mais par contre, celles et ceux qui veulent en savoir plus et qui veulent approfondir ce sujet et essayer de comprendre un petit peu à la fois les terrains de jonction et les terrains de séparation, il faut parler de tout ça. Essayer de comprendre ce qui sépare et ce qui réunit toutes ces pratiques, eh bien, sont invités donc à poser leurs questions. N'hésitez pas. On est là pour ça. Voilà, à très bientôt. Yeah.